Bienvenue si vous nous joignez à l'écoute de RFI, il est tout juste 16h, temps universel, 17h à Paris, 11h à New York.
Charlotte Idrac.
C'est le sprint final dans la campagne avant la présidentielle aux États-Unis. Kamala Harris ou Donald Trump, on sera à New York, Big Apple, l'État historiquement démocrate, mais où les républicains espèrent gagner du terrain. Autre bataille électorale serrée en ce moment en Moldavie. Second tour de la présidentielle avec en toile de fond le choix d'un rapprochement avec l'Union européenne ou avec la Russie. Une étudiante déshabillée devant une université à Téhéran, en Iran. La vidéo fait le buzz. Selon ses soutiens, elle protestait contre les gardiens de l'université qui lui avaient demandé de respecter le port du voile. Cela fait écho à la mort de Mahsa Amini qui avait provoqué des manifestations il y a un peu plus de 2 ans. La visite a tourné court en Espagne, visite du roi Felipe VI dans les zones sinistrées par les inondations. Accueilli par une foule en colère, cela a frisé l'émeute. Et puis la fin d'une semaine de rêve pour le français Hugo Humbert en finale du tournoi de tennis de Paris-Bercy. Victoire sans appel de l'allemand Alexander Zverev. Ce sera elle ou lui, Kamala Harris ou Donald Trump, toujours au coude à coude dans les derniers sondages à J-2 avant la présidentielle de mardi. Alors il y a des États où c'est traditionnellement très serré, les swing states comme la Pennsylvanie, et d'autres États qui sont considérés comme des fiefs. C'est le cas de New York, l'État qui a voté pour le candidat démocrate à chaque élection présidentielle depuis 1988. Mais Big Apple est aussi la ville de Donald Trump. Il y a son QG, la fameuse Trump Tower. Et son camp espère cette fois-ci y gagner du terrain, Karine Otten.
La dernière fois que New York a voté pour un président républicain, c'était pour Ronald Reagan en 1984. Mais Steven, un Afro-Américain de 24 ans du quartier plutôt modeste du Bronx, s'apprête à voter à nouveau pour Donald Trump et il en est convaincu, son favori pourrait gagner.
Les prix de la nourriture ont augmenté, le prix de l'essence a augmenté, le coût de la vie quotidienne a considérablement augmenté et ce n'est pas confortable, surtout à New York où les choses sont déjà chères. Vous réalisez que vous étiez à l'aise sous l'ère Trump, mais pas avec Kamala.
Voyez-vous plus de monde voter pour Donald Trump qu'il y a 8 ans ?
Bien plus, ouais, une augmentation drastique.
Pourtant, les chiffres restent en faveur de Kamala Harris. Elle perdrait 2,5 points par rapport au résultat effectué par Joe Biden il y a 4 ans, mais la tendance du 60-40 reste similaire aux 9 dernières élections. En revanche, le réel enjeu, c'est le contrôle de la Chambre des représentants. Il sera décidé ici sur la base du résultat d'une demi-douzaine de circonscriptions compétitives. Les démocrates ont reproché à New York de leur avoir fait perdre le contrôle de la Chambre en 2022 lorsqu'un certain nombre de districts sont passés du bleu au rouge. Cela a annonce des face-à-face plus musclés. Karine Otten, New York, RFI.
New York où la Kenyane Sheila Chepkirui vient de remporter le marathon. Visite mouvementée et écourtée du roi Felipe VI en Espagne. Le souverain s'est rendu à la mi-journée dans les zones dévastées par les inondations qui ont fait 217 morts dans le sud-est. En visite donc avec la reine et le premier ministre socialiste Pedro Sanchez, ils ont été accueillis par une foule très en colère qui a jeté de la boue des pierres sur le cortège. La visite a finalement été suspendue. À l'instant, le chef du gouvernement dit reconnaître l'angoisse et la souffrance des sinistrés, mais condamne aussi tout type de violence. Entre ambition européenne et rapprochement avec la Russie, c'est ce qui se joue en ce moment en Moldavie, second tour de la présidentielle. Le scrutin oppose la présidente sortante, Maia Sandu, pro-européenne, et l'ex-procureur Alexander Stoyanoglou, soutenu par les pro-russes. D'après les observateurs, la bataille est serrée. Les bureaux de vote doivent fermer dans 2 petites heures maintenant. Un conseiller de la présidente sortante a dénoncé dès la mi-journée des ingérences russes. Et cela après une campagne marquée par de fausses informations, des propos homophobes aussi. Angela Frolov est la directrice de l'ONG GenderDoc en Moldavie.
We invite our community to go to vote, to think about their future.
Nous invitons notre communauté à aller voter, à réfléchir à son avenir. De nombreuses fausses informations sur les LGBT ont été diffusées ici, les mêmes que le pouvoir russe utilise en Russie, mais aussi en Géorgie. Plusieurs candidats ont par exemple raconté que les garçons pourraient devenir des filles et les filles pourraient devenir des garçons, que les enfants apprendront à l'école comment faire l'amour.
We teach how to make sex and all this.
Avec tout ça, ils veulent semer la peur. Beaucoup de gens ont peur que des personnes LGBT viennent d'Europe pour détruire leurs familles, leurs enfants, et que tous les gens seront obligés d'être gays ou lesbiennes. Beaucoup d'idées totalement stupides.
Voilà, Angela Froloff, la directrice de l'ONG GenderDoc, M, propos recueillis par notre envoyé spécial en Moldavie, Julien Chavanne. De nouvelles frappes israéliennes au Liban, ce dimanche dans l'est du pays, sur plusieurs localités de la plaine de la Beka, sachant qu'un peu plus tôt, l'armée israélienne avait diffusé des ordres d'évacuation près des zones considérées comme des fiefs du Hezbollah. Un bombardement israélien a aussi visé Saïda, la principale ville du sud du Liban. Le ministère libanais de la Santé fait état d'au moins 3 tués. Il y a quelques minutes, les services du Premier ministre israélien ont fait état d'une visite de Benjamin Netanyahou à la frontière avec le Liban, sans plus de détails pour l'instant. C'est une vidéo devenue virale en Iran. On y voit une jeune femme en sous-vêtements dans la cour de l'Université libre de Téhéran. C'est cette affaire qui intervient un peu plus de 2 ans après la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire et ce qui avait provoqué de violentes manifestations dans le pays. À Téhéran, les précisions de Siavash Ghazi.
Sur la vidéo, on voit la jeune étudiante en culotte et en soutien-gorge assise sur des escaliers alors qu'un gardien est en train de passer un appel. Ensuite, elle se lève et se rend sur l'avenue à l'intérieur de l'enceinte de l'université où elle marche sur plusieurs dizaines de mètres. Elle enlève même sa culotte sur le chemin. Quelques dizaines de mètres plus loin, elle est finalement entourée par des femmes en tchador qui la poussent de force dans une voiture. Selon la version publiée sur les réseaux sociaux, elle a été blessée lors de son arrestation. Elle aurait enlevé ses vêtements pour protester contre les gardiens de l'université qui lui avaient demandé de respecter le voile et ses vêtements auraient été déchirés. Mais pour les responsables de l'université, la version est tout autre. Selon la présidence de cette université, cette jeune étudiante est mère de 2 enfants et a des problèmes psychologiques car elle s'est séparée de son mari. En tout cas, elle a été emmenée au commissariat et pour le moment, elle n'a toujours pas été libérée. Des actrices iraniennes se sont solidarisées avec Ahoud Ariari, âgée de 30 ans et étudiante en français. Des avocats ont également affirmé qu'ils étaient prêts à la défendre. Des organisations internationales des droits de l'homme ont demandé sa libération immédiate. Siavash Ghazi, Téhéran RFI.
L'Iran où des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce dimanche dans plusieurs villes du pays et cela pour célébrer le 45e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis en 1979. Des manifestations avec des drapeaux donc iraniens, palestiniens ou encore ceux du Hezbollah. Les écoles maternelles et primaires fermées à partir de ce lundi à Lahore au Pakistan et ça va durer toute la semaine. Conséquence de la pollution record enregistrée dans la deuxième ville du pays qui est plongée dans un brouillard jaunâtre. Bercy, c'est fini, la mythique salle de l'Est parisien où s'est tenue cet après-midi la finale du Masters 1000 de tennis où l'on vous retrouve, Eric Mamrut. Finalement, donc, victoire nette et sans bavure de l'Allemand Alexander Zverev pour cette finale face au Français Hugo Humbert.
On peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de suspense.
Ouais,
Charlotte, là...
Ça a été plié.
Le public n'a pas été gâté. Ouais, 6-2, 6-2 en 1h15. Une finale à sens unique. Effectivement, sans grande émotion, Alexander Zverev était vraiment largement au-dessus de son adversaire qui découvrait ce niveau des Masters 1000. Hein. C'était sa première participation à ces tournois de grande envergure juste après les grands chelems. Hugo Humbert, 18e mondial, un petit peu émoussé par sa folle semaine au cours de laquelle il aura notamment terrassé Carlos Alcaraz. Un petit peu stressé, comme vient de nous le confier sa fiancée qui est joueuse de tennis. Et ceci a fait qu'à l'arrivée, eh bien, il a été surclassé. Donc par cet Allemand qui engrange le 23e titre de sa carrière, le 7e dans cette catégorie des Masters 1000, son 2e cette année après Rome. Et ironie du sort, vous disiez que c'était la dernière fois que ça se jouait ce tournoi ici à Bercy. Eh bien le premier vainqueur en 1986 était allemand, Boris Becker. Eh bien voilà, 38 ans après, un Allemand referme le livre de ce Bercy de ce tournoi parisien dans sa version Bercy maintenant.
Avant la défense.
La défense.
Merci à vous, Eric Mamrut. Tout de suite, Hugo Moissonnier, les sports, ça continue.